Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le projet de réforme des retraites sera-t-il plus clair en fin de journée? Le Premier ministre doit en tout cas en donner les grands principes à midi tout à l'heure. Un discours attendu, vous l'entendrez, et dont on ne sait pas grand-chose, ou presque. Les femmes ayant des enfants devraient notamment être privilégiées.
Dans ce journal, vous comprendrez aussi pourquoi le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a démissionné de certaines de ses fonctions hier.
À l'aube des élections législatives anticipées en Grande-Bretagne, nous irons à Londres. Vous entendrez les derniers arguments de campagne et les prévue demain jeudi.
Et puis nous nous questionnerons aussi sur le pacte vert pour l'Europe promis par la nouvelle présidente de la Commission européenne. Présentation attendue aujourd'hui.
Zoom enfin sur les feux de forêt en Australie. Incontrôlables pour beaucoup, ils entourent Sydney. Les habitants suffoquent. Il n'y aura pas d'annonce magique qui fasse cesser les manifestations. Édouard Philippe l'a reconnu hier devant les députés de la majorité. Le Premier ministre doit présenter ce midi les grandes lignes du projet de réforme des retraites. Et même si les rassemblements étaient hier un peu moins importants que jeudi dernier, avec 339 000 à 1 million de personnes selon les chiffres des autorités et des syndicats, Édouard Philippe sait tout de même que la mobilisation se poursuivra, que chacun écoutera ses mots, analysera son discours jusque dans les plus petites communes de France où les rassemblements pour l'instant sont peu visibles. Mais l'intérêt pour cette réforme des retraites est très important, Rosalie Lafarge.
Les grands cortèges de manifestants à Ollioul dans le Var, les 13 000 habitants les regardent un peu de loin.
C'est puis avec un certain fatalisme, si je puis dire. Voilà, ils attendent que ça se passe.
Mais le maire de droite, Robert Beneventi, partage tout de même une certaine impatience avec ses administrés.
On ne peut pas danser le tango là-dessus, c'est pas possible. Il faut dire voilà les dispositions que l'on propose. Puis ensuite, eh bien, nous verrons bien.
On attend de voir, c'est aussi un peu le sentiment qui domine à Guivelde dans le Nord.
Toute la population guivaldoise sera devant la télévision pour écouter le Premier ministre.
Jean de Colle est le maire sans étiquette de cette commune de 4000 habitants, jusqu'ici très peu touché par les perturbations.
Tant qu'on n'a pas la règle du jeu, on ne peut pas continuer à faire grève. Mais si les gens doivent perdre, je dirais, 300, 400, 500 euros, alors c'est plus la même chose.
C'est d'ailleurs bien ce qui inquiète les 250 habitants de la Bastide du Vert dans le Lot.
Clairement, c'est aujourd'hui le sujet de discussion.
Et une crainte ressort de ces discussions selon Philippe Canseil, le maire de gauche du village.
La crainte, c'est qu'une distance finisse par se créer entre des décisions qui sont ressenties davantage comme des visions politiques plus que des visions vis-à-vis des citoyens. Ça donne véritablement l'impression, en tout cas nous d'ici, que les décisions ne sont pas prises pour que les retraités vivent mieux, mais tout simplement dans un schéma politique.
Mais là aussi, on attend de voir, on attend d'entendre ce qu'a à dire le Premier ministre aux Français et on promet de suivre sa déclaration à Paris de près, même si on est loin.
Une déclaration qui interviendra, je vous le disais, à midi tout à l'heure, avant une intervention télévisée ce soir sur le plateau de TF1. Lors de son discours, Édouard Philippe devrait évoquer les droits familiaux avec l'idée de rassurer les femmes, notamment. Une étude de l'Institut de la Protection sociale a montré qu'elle serait perdante dans le nouveau système Anne-Laure Jumet.
Le Premier ministre va devoir démontrer que sa réforme est plus distributive pour les femmes et qu'elle réduit même l'écart de pension avec les hommes. Pour cela, il va mettre en avant l'une des nouveautés de cette réforme par rapport au système actuel, une bonification de 5% par enfant et ce dès le premier enfant. Ces points pourront être partagés entre les parents et à défaut d'accord explicite, ils seront attribués à la mère. Le but, c'est de rééquilibrer le système en faveur des femmes alors que leur pension moyenne reste inférieure de 42% à celle des hommes. Dans le régime actuel, la majoration n'existe que pour les familles de 3 enfants et plus, un bonus de 10% par parent. Plus de 5,5 millions de retraités en bénéficient. Mais avec la réforme, les familles de 3 enfants seraient donc perdantes car elles ne bénéficieraient que d'une majoration de 15% à se partager. Une situation que le gouvernement pourrait décider de corriger. Ce qui est sur la table, c'est de préserver la situation des femmes ayant eu leurs 3 enfants sous l'actuel régime.
Anne-Laure Jumet, et j'ajoute qu'hier soir, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a indiqué que la valeur du point sera indexée sur les salaires et non sur l'inflation, comme c'est le cas dans le système actuel. Et par ailleurs, selon nos confrères de France Inter, ce matin, la réforme des retraites commencera à s'appliquer avec la génération 1975 en 2025. Elle concernerait donc ceux qui auront 50 ans au 1er janvier 2025. Précision attendue de la part du gouvernement ce midi. Côté mobilisation maintenant, une intersyndicale appelle déjà à deux nouvelles journées nationales, demain et mardi prochain. Sachez que de fortes perturbations dans les transports se poursuivent aujourd'hui à la SNCF et à la RATP. Nous évoquions à l'instant Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites. Il est bousculé ces derniers jours à cause d'activités annexes à sa fonction, si bien qu'il vient de démissionner de deux postes qu'il occupait, Stéphane Robert.
Jean-Paul Delevoye avait conservé un poste de président d'un cercle de réflexion sur l'éducation, Parallax, poste pour lequel il était rémunéré 5 300 € par mois et que selon l'article 23 de la Constitution, il n'avait peut-être pas le droit de cumuler avec sa fonction au gouvernement. Et puis, il avait aussi une fonction d'administrateur à l'Institut de la formation de la profession de l'assurance, fonction bénévole celle-là, mais qu'il avait omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et à propos de laquelle certains ont dénoncé un potentiel conflit d'intérêts. C'est notamment ce qu'a rappelé le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, hier à l'Assemblée nationale.
Monsieur Delevoye, vous n'êtes plus l'homme de la situation pour mener cette réforme des retraites parce qu'on ne vous fait pas confiance. Les gens savent au profit de quoi vous êtes.
Réponse de Jean-Paul Delevoye, il n'y a plus rien à lui reprocher car il a démissionné de ses activités annexes.
Tout mon parcours prouve mon souci de transparence et de respect des lois. Et à ce jour, compte tenu des suspicions que certains n'ont cessé d'alimenter, j'ai mis un terme à toutes mes activités et je suis au clair par rapport à cela.
Pas sûr que cette mise au clair suffise à éteindre les mises en cause. Déjà parce que l'association Anticor a décidé de saisir la justice. Ensuite, parce que Jean-Paul Delevoye ne compte pas que des amis autour de lui. Un responsable syndical expliquait récemment que c'est un enfumeur de première. Si tu ne veux rien apprendre et rien négocier, va voir Delevoye, expliquait-il. Autrement dit, il ne sert pas à grand-chose. Un ministre, quant à lui, considère qu'il n'a plus la main sur les retraites et en parle au passé. Delevoye était un peu trop technique, explique ce ministre. Or, pour les Français, il faut de la chair, il faut du sens. C'est ce que va tenter d'instiller le Premier ministre qui a repris le dossier. Jean-Paul Delevoye, lui, semble aujourd'hui quelque peu marginalisé.
Alors, qui pour sauver la réforme des retraites? Voici la question, voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss que nous retrouverons après ce journal. Soulignons aussi qu'en marge du discours d'Édouard Philippe tout à l'heure au Conseil économique, social et environnemental à Paris, des policiers mécontents seront présents devant le bâtiment. Eux aussi tiennent à leur régime spécial. Après une semaine au ralenti, ils organisent plusieurs blocages aujourd'hui à l'appel de trois syndicats majoritaires chez les gardiens de la paix. Et dans l'ombre de cette mobilisation contre la réforme des retraites, les hospitaliers en grève veulent aussi maintenir la pression. Ils prévoient, eux, une nouvelle manifestation le 17 décembre prochain qui convergera ou pas avec le mouvement des retraites s'il perdure. Les internes ont rejoint le mouvement hier. Ils revendiquent déjà 60% de grévistes. Le procès en appel des époux Balkany débute aujourd'hui dans le volet fraude fiscale. Ils ont été condamnés en septembre dernier à 4 ans et 3 ans d'emprisonnement. Même procédure aujourd'hui, mais la forme sera différente, Florence Turm.
Le délit de fraude fiscale reste le même pour lequel les époux Balkany ont été reconnus coupables et condamnés en première instance. En revanche, le procès se présente sous un jour différent. Isabelle Balkany, hospitalisée durant l'audience correctionnelle après une tentative de suicide, a depuis repris les rênes de la mairie de Levallois et devrait donc comparaître devant la cour. Elle, libre, met son époux dans le box des prévenus, assisté d'un nouvel avocat, Romain Dieudonné, qui déplore la situation après le rejet lundi de sa dernière demande de mise en liberté.
Monsieur Balkany va donc comparaître. Être détenu devant la cour, ce qui est totalement inhabituel et véritablement insolite dans un dossier de cette nature. Sur un plan de principe, ça change beaucoup de choses parce qu'il comparaîtra dans le box. Et encore une fois, dans un dossier de cette nature à caractère fiscal, il est tout à fait inhabituel devant la chambre devant laquelle on va plaider, on va comparaître, que le prévenu comparaisse détenu. C'est inhabituel.
Un nouveau procès bientôt suivi d'un second prévu en février sur le volet blanchiment de fraude fiscale. L'enjeu est bien sûr celui de la condamnation à de la prison ferme, mais aussi des peines d'inéligibilité de 10 ans prononcées en première instance. Des peines qui pour l'heure ne sont pas définitives et n'empêchent pas Patrick Balkany de briguer un nouveau mandat comme il l'a annoncé la semaine dernière depuis sa cellule à la prison de la Santé.
Ce procès pour fraude fiscale se terminera mercredi prochain. Ils sont détenus en Iran depuis le mois de juin, depuis 6 mois maintenant. Et pour la première fois, Emmanuel Macron réclame publiquement leur libération. Dans un tweet hier soir, il juge intolérable la situation des deux chercheurs français Youssef Hariba, Abdelka et Roland Marchal. Ils doivent être libérés sans délai, je l'ai dit au président Rouhani et je le répète ici, voilà ce qu'écrit Emmanuel Macron.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. En Grande-Bretagne, Boris Johnson brandit le risque de paralysie du Brexit en cas de défaite aux législatives demain.
Oui, des élections anticipées pour lesquelles le Premier ministre conservateur n'aurait plus qu'une courte avance sur l'opposition travailliste. Derniers affrontements électoraux donc, derniers arguments des uns et des autres. Et le Brexit finalement n'est pas le seul sujet de campagne. Les questions économiques et les promesses sont nombreuses, Louise Baudet.
It's time for real change.
Le vrai changement après 10 ans d'austérité. Promesse phare du travailliste Jeremy Corbyn.
Nous voulons déclencher un choc d'investissement record, reconstruire nos écoles, nos hôpitaux, les logements dont nous avons tant besoin.
Mais le conservateur Boris Johnson a lui aussi beaucoup promis.
Nous promettons 50 000 infirmières de plus et 50 millions pour les salaires des chirurgiens.
Pas de quoi convaincre Steve Hedley, syndicaliste du rail fidèle au Parti travailliste, même s'il est aussi un brexiteur de la première heure.
Pour moi, il n'y a pas de choix parfait dans cette élection, mais on a deux premiers ministres possibles, et l'un d'eux est Boris Johnson, un absolu crétin de droite, vraiment.
Dans le Nord, les Midlands ou le Pays de Galles, Boris Johnson séduit pourtant une working class paupérisée, largement pro-Brexit. Mais la bascule de cet électorat n'est peut-être pas durable, explique Matt Bevington, chercheur au King's College de Londres.
Pour l'instant, ces électeurs veulent le Brexit, mais s'ils l'obtiennent, alors ils se préoccuperont à nouveau de la santé ou de l'éducation.
Vote populaire tangent et stratégique pour chacun des deux camps.
C'était Louise Baudet pour France Culture à 24 heures des législatives anticipées. Jeudi de vote en perspective aussi en Algérie. Et à la veille de la présidentielle, de nombreux Algériens défileront encore aujourd'hui contre ce scrutin perçu comme un moyen pour le régime de se régénérer. Hier soir, on apprenait qu'un défenseur des droits humains avait été condamné en Algérie à 1 an de prison ferme pour outrage envers les autorités. Des accusations ridicules. Voici la réaction de Donald Trump après l'avancée de la procédure de destitution qui le vise. Les démocrates retiennent 2 chefs d'accusation à son encontre, entrave à la bonne marche du Congrès et abus de pouvoir. Le président américain est accusé d'avoir poussé l'Ukraine à enquêter sur son rival démocrate Joe Biden. La nouvelle patronne de la Commission européenne dévoilera aujourd'hui son pacte vert pour l'Europe, un vaste plan d'action pour lutter contre le dérèglement climatique tout en créant de l'emploi. Voilà ce que promet Ursula von der Leyen. Elle entend notamment consacrer 1 000 milliards d'euros d'ici 2030 pour mener l'Europe vers la neutralité carbone en 2050. Une mission ambitieuse qui nécessite toutefois des objectifs intermédiaires, selon Neil Makarov. Il est spécialiste des politiques européennes au sein du réseau Action Climat.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se focalise beaucoup sur un objectif de long terme, la neutralité en gaz à effet de serre en 2050, ce qui est une bonne chose, bien évidemment, mais cela requiert des actions de très court terme et notamment de relever nos objectifs climatiques pour 2030. Or, il semblerait que le calendrier de la présidente de la Commission européenne sur ce point-là est plutôt flottant. Il faudrait engager des transformations de court terme dans tous les secteurs. Par exemple, on pourrait imaginer une stratégie automobile qui viserait à bannir les voitures essence et diesel et à investir massivement dans les véhicules à faible émission. On pourrait aussi, pourquoi pas, réformer en profondeur la politique agricole commune afin que les Européens puissent bénéficier d'une alimentation de qualité. La Commission européenne parle de 1 000 milliards d'euros d'ici 2030. Or, on sait d'ores et déjà qu'il manque environ 200 milliards d'euros par an pour que l'Union européenne atteigne ses objectifs actuels. Donc, il va falloir lever énormément d'argent, qui peut être de l'argent frais, de l'argent nouveau, notamment avec des nouvelles taxes, comme une taxe sur le kérosène de l'aviation, ou par exemple la Banque Centrale Européenne qui pourrait aider à créer de l'argent pour la transition. Mais ça peut être aussi de la réorientation de l'argent qui est aujourd'hui investi dans les énergies fossiles et qui pourrait aller vers la transition écologique. Et là-dessus, la Commission européenne, il faut vraiment qu'elle travaille avec les États pour que les États puissent également réorienter leur budget public vers la transition écologique.
Des propos recueillis par Véronique Reberotte. La planète à protéger face à un climat qui se dérègle. Pour preuve encore en Australie, la sécheresse est cette année très longue. Elle dure depuis septembre et elle provoque d'immenses incendies, souvent intenables, Valérie Crovin.
Des températures caniculaires alliées à des vents forts attisent les feux qui ont déjà ravagé plus de 2 millions d'hectares. C'est l'équivalent de deux fois la superficie de Sydney. Julie, une Française de 33 ans, suit l'évolution des incendies sur son téléphone portable grâce à une application.
Si moi je regarde sur cette application, Australian Fires, quand on clique sur les feux autour de Sydney, on voit leur état en direct. Par exemple, il y en a un qui est situé dans un endroit qui s'appelle les Blue Mountains, qui est un endroit très touristique à Sydney. Et le statut du feu, il y a écrit « out of control ».
Hors de contrôle. Dépassés par l'ampleur des incendies, les pompiers sont épuisés. La population australienne, elle, se mobilise pour faire des dons. Et une pétition circule pour annuler le célèbre feu d'artifice du Nouvel An tiré depuis l'opéra de Sydney.
Tout le monde en fait signe la pétition pour que le feu d'artifice soit annulé et que les fonds soient reversés pour les pompiers ou pour les animaux. Tout le monde a envie d'aider.
Des sites proposent également d'adopter pour Noël un koala, animal emblématique d'Australie. Pris au piège des flammes, plusieurs centaines d'entre eux auraient déjà péri.
En France métropolitaine, l'hiver s'installe au contraire et la pluie traverse toujours le pays entièrement concerné. Il fait ce matin 2 degrés à Strasbourg, 3 degrés à Lyon, 7 à Paris et Nantes, 11 degrés à Bayonne.